Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. On va parler de zombies. Le titre de cette conférence, c'est l'invasion zombie, une fin du monde cannibale. Entre le repas et l'heure du goûter, on va parler de nourriture. Je pense que c'est une bonne thématique. Et alors, ce qui est intéressant sur cette table ronde, c'est que on a mixé à la fois des auteurs et puis des spécialistes du zombie. Donc, on va pouvoir en discuter. Voilà, le dernier livre qui nous manquait, on va vraiment pouvoir y aller. Alors, juste à mes côtés, Leandro Avalos-Blacha, qui a fait Berachuset, je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, avec sa traductrice Jessica, qui va pouvoir nous aider. La fin du monde est en marche. À ses côtés, Fabien Clavel, qui a écrit dans plein de genres différents, mais notamment L'Évangile cannibale, Tati Daniel au pays des zombies. On va pouvoir en discuter ensemble. Jean-Pierre Andrevon, qui a fait du zombie avant le zombie, je veux dire, notamment avec Un horizon de cendres, qui était paru au Bélial il y a pas loin de 10 ans, peut-être, Jean-Pierre, quelque chose comme ça.
Tout à fait, oui.
Hop, un micro.
Mais il avait été précédé bien avant par Les Revenants de l'Ombre, qui était aussi une histoire de zombies qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, on va pouvoir voir un petit peu avec Jean-Pierre pourquoi est-ce que les zombies l'intéressent. À ses côtés, Maxime Coulombe. Maxime Coulombe qui est sociologue et professeur d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Laval, mais qui a aussi signé Petite philosophie du zombie. Donc, il va pouvoir nous raconter tout ça. Et puis, Julien Bétan, qui a fait l'ouvrage qui a pour titre Zombie. Voilà, comme ça, c'est assez clair, au mouton électrique, qui est aussi rédacteur en chef de la revue Fiction et traducteur par ailleurs. Je vous propose que dans un premier temps, on parle un petit peu avec les auteurs de leurs intentions, comment est-ce qu'ils ont imaginé leurs zombies, et puis qu'ensuite, avec Julien et Maxime, on puisse ouvrir un petit peu notre champ. N'hésitez pas à rebondir les uns les autres en fonction. Jean-Pierre, allez, le prom, c'est avoir écrit sur les zombies.
Bah, je sais pas, je suis sûrement pas le premier. D'ailleurs, le premier film la première apparition vraie du zombie, c'est quand même au cinéma et pas en littérature. C'est les films de Romero, La nuit des morts vivants, qui a été fait en 1968. C'est peut-être pas un hasard. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose et que tu me l'as posée, mais moi je me la pose à moi-même. Qu'est-ce qui m'intéresse chez les zombies ? Pas grand-chose, à vrai dire. Je me sens un petit peu un intrus, là. Et puis en réfléchissant un petit peu, si j'ai écrit sur les zombies, c'est quand même qu'il y avait quelque chose qui m'interloquait, qui me fascinait. Mais c'est plutôt... le zombie, pour moi, était plutôt un élément extérieur qui vient troubler l'élément intérieur que sont nous autres, les vivants normaux, si je peux dire. Et c'est plutôt c'est comme une épidémie de peste. D'ailleurs, on parle d'épidémie de zombies, effectivement. C'est comme une invasion qui peut venir des étoiles, qui peut venir de nos propres cellules. Donc, c'est quelque chose qui trouble l'ordre établi, en fait. Et ce qui m'intéressait surtout, et ce qui m'intéresse encore, puisque j'ai, après Les Revenants de l'Ombre, qui doit dater de 1978, si je me souviens bien, donc c'est pas très récent, j'ai écrit plusieurs autres histoires, dont effectivement un roman qui s'appelle Un horizon de cendres, qui devait être au départ une nouvelle, d'ailleurs, faite pour une revue qui a cessé de paraître, donc je l'ai agrandi en roman. Et puis j'ai écrit plusieurs autres nouvelles qui ne devraient pas être considérées comme des histoires de zombies, c'est plutôt des morts simplement qui reviennent. Une mort, je peux citer Une mort bien ordinaire, par exemple, qui était une nouvelle, ou Le reflux de la nuit, qui est un roman. Et tout ça, c'est effectivement, je fais agir un élément extérieur qui vient troubler l'ordre établi. Dans le cas d'une mort très ordinaire, c'est une simple famille, hein, le père ou le grand-père, je ne sais plus, est mort, et puis il revient. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Il nous emmerde, quoi. Il sent mauvais, il vient, et ça, c'est un élément de plus dans la famille qui trouble les relations père-fille, mari-femme, etc. Dans Les Revenants de l'Ombre, alors là c'est un petit peu différent parce que ça se passe en 43, donc dans la France occupée, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je me suis basé sur le fait que les nazis étaient très férus d'occultisme, hein. Ils avaient des théories sur la Terre creuse par exemple et autres, sur la race supérieure venue d'Asgard, etc. Et ça m'a semblé intéressant qu'un savant nazi un peu fou fasse revenir les morts pour gonfler les effectifs de la Wehrmacht et des SS, etc., parce qu'ils commençaient à penser qu'ils perdraient la guerre. Donc voilà, donc c'est pas encore une fois le zombie lui-même qui m'intéresse, mais c'est son effet qu'il peut avoir soit sur un tout petit groupe, donc une famille, soit sur une société tout entière. Et pour ce qui est d'Un horizon de cendres, qui est un des textes les plus récents que j'ai écrit sur les zombies, à part la petite nouvelle que j'ai écrite dans ce recueil-là, j'ai voulu faire une espèce de, non pas vraiment même une variation, mais simplement un espèce de copie-coller quoi, des films de Romero, notamment La nuit des morts vivants et autres. Mais encore une fois, le zombie étant simplement une masse plus ou moins indifférenciée qui vient de l'extérieur et qui vient troubler une famille. Puis la famille, autour de cette famille, s'agrège différents individus. Puis après, ils se réfugient dans un fort gardé pour l'armée. Vous voyez, c'est très classique, on trouve ça dans 28 jours plus tard ou 28 semaines plus tard, des films que tout le monde a vus. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à fait au départ. Le zombie est plutôt une créature de cinéma, hein, parce que évidemment il est esthétique, d'une esthétique horrible, certes, mais c'est un individu ou un groupe d'individus indifférenciés qui réagit beaucoup plus par l'image que par le texte, parce que moi, c'est vrai, qu'est-ce que je peux dire sur les zombies ? Strictement rien, quoi, en fait. C'est plutôt les personnages qui sont opposés aux zombies, qui sont sous le joug de cette invasion, comme ça, multiple. C'est plutôt ça qui m'intéresse de traiter, ce que tout le monde fait à peu près, quoi. The Walking Dead, c'est ça, en fait. C'est pas tellement les zombies qui intéressent, mais c'est les humains qui sont assaillis par ces zombies, quoi. Voilà, donc je me rends compte que j'ai à peu près rien dit du tout, mais bon, j'ai pas pu faire mieux.
Déjà des petits éléments. Fabien, même chose, quelle était ton intention avec l'évangile cannibale? Comment toi tu as imaginé tes zombies?
Alors pour dire aussi, moi non plus j'ai pas d'affinité particulière avec le zombie au départ, mais je suis dans une logique qui est celle d'essayer d'explorer toutes les créatures. Donc j'ai travaillé sur les vampires déjà, j'ai travaillé sur les anges, etc. Il fallait que j'en vienne aux zombies. C'était obligé. Alors quel était... Et du coup, d'ailleurs, là j'ai une espèce de triplé qui sort sur les zombies. J'en profite puisque les éditeurs sont plus favorables en ce moment à des sorties sur les zombies.
Le zombie se reproduit vite.
Voilà, en plus finalement, c'est l'épidémie qui se poursuit en littérature aussi. Alors quelles étaient mes intentions? Alors je ne vais pas trop en révéler parce que moi je me suis inspiré notamment justement des deux essais qu'on trouve ici devant nous, donc je laisserai les auteurs en parler, mais ils m'ont été d'un grand secours quand je me suis documenté dessus. Pour parler des trois ouvrages, je vais insister sur deux plutôt, je parlerai de l'évangile cannibale à la fin. Je sors là un roman de jeunesse sur les zombies. Et donc en gros, c'est des gamins qui prennent le métro, une bombe explose et les effets, parce que c'est une bombe avec du gaz, un gaz neurotoxique, transforment en gros les gens en zombies. Et donc ça, la première intention, c'était vraiment l'enfermement, la peur de l'attentat et tout ce qui est en rapport avec le traumatisme et une espèce d'enfermement autistique autour de la peur, etc. Quiconque a pris le métro parisien aux heures de pointe comprend tout à fait ce que j'essaye de raconter. Pour l'évangile cannibale, c'était un peu différent. Je suis parti d'une idée qui me séduisait, c'était de confronter des vieux à des zombies, sachant qu'ils ont à peu près les mêmes... enfin des vieux, des très vieux, hein, vraiment, des grabataires en maison de retraite, qui sont en fauteuil roulant, qui traînent leurs poches derrière eux, la perf sous le bras, etc. Et donc de les confronter à ces créatures, donc sachant qu'ils ont à peu près la même lenteur. Moi je ne fais pas dans le zombie qui court, parce que ça me semble moins intéressant. En gros, le point de départ de mon histoire, c'est que nous avons donc cette maison de retraite, qui est une maison de retraite absolument horrible. On raconte qu'il y a une gastro qui revient périodiquement avec des descriptions très précises, que j'aime particulièrement. Je sais que tout le monde ne partage pas mon goût pour ce genre de description scatologique, mais il faut vous y préparer si jamais vous ouvrez le livre. Et il y a quelqu'un qui est... alors la Tati Danielle de l'histoire, c'est en fait une des seules femmes qui reste, a une espèce de révélation. Et elle dit, il faut qu'on s'enferme, le monde va disparaître. Et les autres suivent. Ils sont un petit peu diminués quand même, donc ils s'enferment. Effectivement, le monde disparaît. Et quand ils ressortent au bout de 40 jours, ils se retrouvent au milieu de zombies qui ont complètement envahi Paris. Et donc, ils sont là en train d'être coursés par les zombies avec leurs fauteuils roulants dans les rues de Paris, etc. Et ils vont essayer d'organiser un petit peu la survie. Sauf qu'au lieu d'avoir des jeunes gens en pleine santé, on a des vieillards à bout de souffle. Et c'est ce contraste-là qui m'intéressait, sachant qu'évidemment ici, le zombie incarne la peur de vieillir, la peur de la mort. Et justement, mes vieux, ça se passe dans les années 2050, sont des 68ards. C'était fait exprès pour que ça corresponde à la génération de mes parents, à moi. Moi aussi, je pense qu'il y a un lien fort entre les films de Romero qui commencent en 68 et les événements de mai et d'ailleurs.
Léandro, même question. Alors, vous avez une héroïne qui s'appelle Trash, qui est une zombie. Comment est-ce que vous l'avez mis en scène et quelles étaient vos intentions pour faire un roman avec des zombies ?
Me parece que los zombies que tenía más presentes al principio son otros que aparecen más hacia el final de la novela y que no están presentes durante todo el texto.
Donc, en fait, les zombies que j'avais à l'esprit, c'est plutôt ceux qui se trouvent à la fin du roman et pas ceux du début.
A mí los zombies me gustaron, la verdad, desde chico, desde que vi Thriller de Michael Jackson.
Non, en réalité, moi, j'ai adoré les zombies depuis petit, à partir du moment où j'ai vu le clip de Thriller de Michael Jackson.
Pero creo que, sobre todo, porque los zombies, me parece, siempre representan algo, representan un pasado en la sociedad que se niega a quedar enterrado y que vuelve.
Surtout parce que je crois que les zombies représentent quelque chose que l'on cache dans la société et qui cette chose-là se nie à rester occulte et revient toujours.
Muchas veces creo que es como un trauma que permanece y que en el cine a lo largo de todos los zombies que aparecen.
Il s'agit souvent d'un trauma qui perdure et notamment au cinéma, ces zombies reviennent toujours.
En cada país creo que van apareciendo los zombies de acuerdo a la historia propia de cada país.
Je pense que dans chaque pays, les zombies apparaissent en parallèle de l'histoire propre de ce pays.
Para trabajar nazis que vuelven o determinado conflicto social.
Pour travailler, par exemple, des nazis qui reviennent ou un conflit social déterminé.
Y hay una película alemana, que en español se llama Los chicos de la estación Zoo.
Oui, donc il y a un film allemand qui a eu beaucoup d'impact sur moi, qui ça n'a pas le même titre en espagnol en français. En français, il s'agit de Christiane F., 13 ans prostituée, que tout le monde a vu en 1981.
Donde ahí se trabaja un poco la imagen del zombie, comparándola con la de los drogadictos, los efectos de la heroína sobre las personas.
Donc là, l'image du zombie est un peu travaillée en la comparant avec des drogués.
Y en el caso de la novela, y que es un tema muy presente en la sociedad argentina contemporánea, también se da esta afiliación entre la presencia de una gran parte de la sociedad, una parte más pobre de la sociedad, donde está muy presente la droga y donde hay muchos chicos que realmente parecen zombies por la calle.
Dans ce cas précis du roman argentin, de mon roman, les zombies apparaissent dans une société très pauvre où la présence de la drogue est omniprésente et où ces jeunes qui la consomment très facilement apparaissent en effet déambulés dans les rues comme des zombies.
Creo que por un lado están esos zombies y después me parece el personaje de Trash que es una está tomada de la película The Return of the Living Dead de Dan O'Bannon.
Donc il y a ces deux sortes de zombies, donc ces jeunes, et d'un autre côté Trash, le personnage de Trash que j'ai tiré du film The Return of the, je le traduis, Le Retour des Morts Vivants.
Y que creo que ese zombie sí tiene que ver más con todo ese cine de zombie que fue el que consumí mucho tiempo y que me gusta mucho.
Donc et là vraiment il s'agit du cinéma qui a trait aux zombies que j'adore, que j'ai beaucoup consommé et que j'ai vu tu disais depuis le premier film de 1932 del 1932, non? de la White Zombie.
Il y a plein de choses qui ont déjà été dites. Je me tourne vers nos deux spécialistes, Julien et Maxime. Plein de questions. L'influence de 68, l'évolution du zombie. Leandro parlait de trauma et de quelque chose de caché qui revenait en fonction de l'histoire des pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur tout ça? Peut-être ouais. L'influence de 68 et les différences entre pays.
Alors l'influence de 68, on associe ça aux zombies à partir du film de Romero dont parlait Jean-Pierre, La nuit des morts vivants. C'est le moment où, pour reprendre le thème de la conférence, enfin de la table ronde, où le zombie devient cannibale. Puisqu'en fait, le zombie existe déjà de manière plus masquée, moins présente dans l'imaginaire occidental depuis une quarantaine d'années en 68. Hein, puisqu'il arrive aux États-Unis à la fin des années 20. À la faveur d'une occupation américaine de l'île d'Haïti, puisque le zombie est en fait issu d'une croyance haïtienne, du vaudou haïtien. C'est un mythe inventé par des esclaves. Et comme il y a une occupation militaire de l'île de 1915 à 1934, il y a tout un tas d'Américains qui se rendent là-bas, dont un voyageur qui s'appelle William Seabrook, qui a, lui, entendu parler de morts qui travailleraient dans les champs de canne et qui va enquêter pendant plusieurs mois à la recherche de ces fameux zombies. Et il va en ramener un bouquin assez sensationnaliste qui s'appelle L'île magique, qui va devenir le best-seller des récits de voyage l'année suivante, en 1929, aux États-Unis, qui va être traduit en France en 1930, et qui va donner lieu à une pièce de théâtre, au film dont parlait Leandro, Les morts vivants en français des frères Alperin, et qui va commencer, nous on appelait ça une lente incubation du virus zombie dans l'imaginaire occidental. Effectivement, ça se passe très lentement. La grosse différence, les gros apports de Romero en 68, ça va être de rendre le zombie contagieux, de le rendre cannibale. Il va se mettre à dévorer les vivants, et quand il est mort et qu'il n'arrive pas à les tuer, il va les transformer eux-mêmes en zombies, d'où cette menace exponentielle, cette idée d'épidémie. Et puis la troisième grosse innovation du film de Romero, c'est que avant Romero, le zombie a toujours un maître. Hein, comme c'est un mythe qui vient du vaudou, on a un sorcier qui crée les zombies, donc qui va créer des esclaves. C'est un mythe du renversement de l'esclavage pour des esclaves. Et dans le film de Romero, la menace est complètement diffuse. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a plusieurs théories qui sont évoquées. Est-ce que ce serait un satellite qui serait retombé sur la Terre? La radioactivité, tout un tas de problèmes qu'on a dans les années 60, en pleine guerre froide, en pleine mutation des sociétés occidentales. Voilà, j'ai perdu un petit peu le fil. Oui, ce qui est important à comprendre, c'est que le zombie est présent avant Romero, mais avant Romero, on n'a pas peur du zombie, on a peur d'être transformé en zombie. Hein, on a peur d'être dépossédé de sa personnalité, d'être aliéné à quelque chose d'autre. Donc ça peut être, comme l'évoquait Jean-Pierre, la peur du contrôle des extraterrestres dans les années 50, qui est elle-même une peur, qui est une parabole, une métaphore de l'aliénation politique, du lavage de cerveau. Je parlais de la guerre froide, de l'ennemi qui vient de la planète rouge, hein, l'ennemi qui vient de Mars, donc l'ennemi communiste. Et donc à partir de Romero, effectivement, ça change. Le film va avoir un succès qui se fait un petit peu lentement, parce que ça passe par le circuit des drive-in. Ce n'est pas un gros, gros succès public, mais ça va devenir, au fil des années, une influence majeure sur la figure du zombie.
Maxime, sur les intentions qu'on met derrière le zombie, il y a une évolution depuis Romero?
Mais je pense que le survol qui vient d'être fait est très juste. Je pense que je le continuerai, en fait, parce que c'est peut-être la chose la plus intéressante à faire. C'est-à-dire qu'il y a une transformation assez importante du zombie des années 30, celui du film avec Bela Lugosi, White Zombie en anglais, les films de Romero et, je dirais, le cinéma de zombie peut-être depuis les années 2000, où chez Romero, tous les morts reviennent à la vie, c'est une sorte de châtiment divin, tandis que plus récemment, le zombie est le fait d'un accident, souvent causé par l'homme, hein, pensez à 28 jours plus tard, ou même à World War Z, où l'homme est responsable de l'épidémie de zombies. Donc, il est notre responsabilité et il va détruire l'humanité. chez Romero, plus le cinéma va avancer, plus cette idée de la destruction de l'humanité va devenir présente. Et aujourd'hui, on ne peut pas véritablement penser le cinéma de zombies sans imaginer la destruction de l'humanité. À mon avis, le film de zombies ou le cinéma de zombies s'est à ce point transformé que l'on assiste désormais à des films de zombies sans zombies. Je dis souvent à la blague qu'un des films de zombies les plus célèbres, c'est La Route, tirée du roman de Cormac McCarthy, qui ne contient aucun zombie, mais qui est un film sur le cannibalisme, qui est un film sur la fin des temps, qui est un film sur la survie et qui est un film, dans une certaine mesure, où on fait le deuil de l'humanité. Et moi, c'est un peu ce qui m'a fasciné dans mon essai. J'ai moins fait une histoire du zombie qu'un essai sur le zombie. Et ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'était de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on en vient à souhaiter la destruction de l'humanité? Pourquoi est-ce qu'assister à la destruction de l'humanité au cinéma nous amuse, nous rassure et nous défoule? C'est complètement paradoxal comme sentiment. Et pourtant, c'est celui-là qui nous anime parce qu'à mon avis, on finit par avoir le goût d'assister à une chose dont on nous menace continuellement, que ce soit par le réchauffement climatique, que ce soit par la peur de l'épidémie, etc. On verrait enfin ce dont l'humanité, ce dont les médias nous menacent. Et le film de zombies, à mon avis, il est devenu tellement important qu'il s'est diffracté dans une certaine mesure dans la culture, dans le cinéma contemporain, etc.
C'est intéressant le côté un peu fun. C'est fun d'écrire des histoires de zombies, Jean-Pierre ou Fabien ou Léandro? Est-ce qu'il y a un côté sympa d'imaginer quand même cette
destruction de l'humanité? De toute façon, toutes les histoires qui traitent de cataclysmes, toutes les histoires qui traitent de menaces, qui menacent de nous éradiquer, sont très agréables à écrire, très jouissives à écrire, parce qu'on est tranquillement dans son ordinateur, dans son bureau, avec les petits oiseaux qui gazouillent derrière, si on a la chance d'habiter à la campagne. Donc, en fait, le zombie, c'est simplement un fagnon, quoi, un fagnon comme la mouletta qu'on agite devant le mufle du taureau, pour nous faire peur, pour voir comment on réagit, de quelle façon, est-ce qu'on les combat, est-ce qu'on s'enferme dans des fortifications, est-ce qu'on accepte de devenir soi-même zombie, comme j'ai tenté de le dire à la fin d'un horizon de cendres, en étant très hypocrite parce que j'ai pas du tout envie de devenir un zombie. Mais c'est simplement une multitude qui peut prendre n'importe quelle forme et qui porte n'importe quel message jusqu'au plus absurde, quoi. Moi, ce que j'aime pas dans les derniers films de Romero, par exemple, c'est qu'il assimile ses zombies à l'autre, quoi, à l'étranger, à celui qu'on rejette parce que c'est l'autre, parce que c'est l'étranger, mais qu'il faut finalement accepter parce qu'il est différent, mais c'est quand même des humains. Ça, c'est complètement absurde. Hein. Je crois que c'est une métaphore qui n'a pas lieu d'être parce que le zombie, c'est simplement une menace indifférenciée qui cherche à vous bouffer comme n'importe quelle guerre, comme n'importe quelle épidémie, comme on l'a dit, comme n'importe quelle catastrophe. Donc, c'est simplement un signe, quoi, vraiment un signe graphique presque, qui est là pour nous faire peur et pour voir comment on réagit. Alors l'intéressant, puisque ce qu'on écrit, on écrit en tant qu'humain, on écrit sur les humains, c'est de montrer la manière dont différents individus ou différents groupes d'individus réagissent devant cette menace, non pas tellement face aux zombies, parce qu'il n'y a qu'une manière, c'est de les combattre ou se sauver, et pas se soumettre. Hein. Vous savez, il y a trois réactions selon Laborit, on fuit, on combat ou on s'agenouille, quoi. Alors les zombies, on s'agenouille pas, on fuit ou on combat. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir comment réagit la famille, comment réagit le groupe, comment on réagit nous en tant qu'individus, c'est-à-dire nous, écrivains, se mettant à la place de l'individu menacé par les zombies. Et c'est ça, je crois, la seule chose qui est intéressante. Mais encore une fois, ça peut être la guerre, hein, qui nous menace, ça peut être une épidémie, ça peut être un aérolite qui nous tombe dessus. C'est n'importe quoi. Donc le zombie, effectivement, c'est n'importe quoi et on en fait ce qu'on veut.
Mais en même temps, je réagirais peut-être là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas n'importe quand, le zombie. Il arrive aujourd'hui. C'est une figure qui est typiquement contemporaine. Moi, je sais, au départ, je ne voulais pas écrire un livre sur les zombies. Je n'étais pas un spécialiste des zombies. J'arrive plutôt d'histoire de l'art. Alors, on est plutôt dans les fantômes, on est plutôt dans les sujets comme ceux-là. Mais je me suis rendu compte que le fantôme, qui est un motif de la modernité, qui est un motif d'un revenant qui revient pour obtenir réparation, c'est quelqu'un qui revient pour réparer un tort, souvent qu'on lui a causé. Hein, pensez à Shakespeare, pensez... Le fantôme, c'est quelqu'un qui revient pour réparer. C'est un gardien, dans une certaine mesure, d'une certaine tradition. Eh bien, le zombie, comme revenant, parce qu'il est exactement comme le fantôme, un revenant, ne vient pas pour réparer, mais vient pour détruire. Et à mon avis, c'est vrai que c'est un motif qui est agréable à manipuler pour évoquer la catastrophe, mais je crois qu'il trahit aussi un certain fantasme de la catastrophe et ce sentiment-là de la défaite. C'est extraordinaire que l'on puisse faire des films avec des êtres qui nous écrasent complètement. Hein, le vampire, on a une certaine admiration pour lui, et en même temps, dans Dracula, par exemple, c'est les humains qui vont gagner à la fin. On se bat contre un être qui est supérieur à nous, et on gagne. Dans le film de zombies, on se bat contre un être qui est inférieur à nous, qui est bête, qui est stupide, etc. Et on perd, et on révèle du coup à quel point l'humanité est en train de se détraquer, à quel point l'être humain, dans son quotidien actuel, a perdu le fil, dans une certaine mesure.
Oui, parce que la particularité des zombies, c'est de ne pas être intelligent, pour le coup. C'est une menace qui est complètement stupide, bovine, et qui nous laisse... Julien ?
Juste un mot, ce sont des humains sans l'humanité. Il y a quand même une dimension autre que la menace froide, brutale, que de l'objet perturbateur dans une société. Il y a la dimension du fait que ce sont des humains ou qu'ils l'ont été à un moment. Et c'est un monstre quand même très particulier. On parlait des revenants, ce sont les seuls revenants qui reviennent physiquement. Dans toute la tradition occidentale, on a des fantômes, on a tout un tas d'esprits, mais qui sont des âmes, qui sont... Et là, comme ça vient d'une conception de l'homme qui est différente de la conception occidentale qui oppose l'âme et l'esprit, l'âme et le corps, ou l'esprit et le corps, la conception haïtienne rend possible qu'un être revienne dépossédé de sa personnalité, de son individualité, mais puisse encore se mouvoir, puisqu'il y a d'autres entités, je vais passer rapidement, mais il y a d'autres entités dans la conception de l'homme haïtienne qui permettent, il y a une espèce de moteur, si vous voulez, physique, qui permet à un corps de se mouvoir. Et le paradoxe du mort-vivant, c'est que, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant? Il est ni l'un ni l'autre, il est les deux à la fois. Et quand il est confronté au groupe humain, comme on l'expliquait, ce qui rend ambigu la situation, c'est aussi le fait de savoir, est-ce qu'on peut le détruire parce qu'il est mort et donc il n'est plus humain? Est-ce qu'il est totalement inhumain? C'est un monstre? Ou est-ce qu'il garde quelque chose d'humain et qui va nous empêcher peut-être de le tuer, de nous pousser à trouver une solution tierce qui serait de le contenir, de l'apprivoiser, voire de le guérir, si on considère que l'épidémie zombie est une maladie.
Sur ce côté fun, agréable, et en même temps qui dit plein de choses, vous l'avez ressenti aussi en écrivant votre livre ?
Sí, básicamente creo que es una figura que por un lado lo interesante es que para mí combina algo siempre agradable con a la vez con algo muy desagradable que es algo que leí muy presente en la novela de Fabián.
Donc pour moi c'est toujours quelque chose ce combi quelque chose de très agréable et de très désagréable comme dans le roman de Fabián.
Ese lado tan escatológico de la figura.
Es ese côté tellement escatologique de la figure.
No sé si a la hora de escribirlo me resultaba tan agradable por la situación creo que generó en sí que aparecieran los zombies en esta novela.
Ah oui, je sais pas si au moment de l'écrire ça a été quelque chose de tellement agréable pour moi à cause de la situation qui a provoqué l'écriture de ce roman et l'environnement.
Porque un poco los zombies, estos muertos que aparecen en la novela, tienen que ver con un momento muy particular también de Buenos Aires, un momento de crisis donde realmente parecía que se estaba viviendo un apocalipsis.
Donc parce que les zombies et les morts qui apparaissent dans ce roman évoluent à un moment où la société était dans une crise apocalyptique, et en particulier à Buenos Aires.
En la novela, la mayor violencia en sí no está tanto en los zombies como en el resto de la sociedad, en los humanos.
Dans le roman, la plus grande des violences ne se trouve pas, on ne la trouve pas avec les zombies, mais bien chez les humains et dans la société.
Y en realidad la que tiene que sobrevivir en ese escenario es más el personaje de Trash y los zombies que la propia sociedad.
Et en réalité, le personnage qui doit essayer de survivre dans ce roman, c'est bien le personnage de Trash et non pas les autres.
Fabien, à la fois sur ce côté fun, alors pourquoi spécifiquement des vieux ? Tu as commencé à le dire tout à l'heure, mais une population diminuée face à une menace diminuée.
Oui, c'était les deux, c'est-à-dire ils ont à peu près les mêmes armes, c'est ça que je trouvais intéressant. Et les deux choses, c'est que c'est quand même le corps qui lâche, c'est-à-dire le zombie, c'est quand même celui qui a les tripes qui pendent, dont on voit l'intérieur à l'extérieur, et c'est des choses qu'on refuse d'habitude. Et c'est pour ça que j'insistais sur le côté scatologique, effectivement. Le côté scato, c'est ce qui est censé rester à l'intérieur, et quand ça sort, on ne doit pas le voir non plus. Et c'est pour ça que voilà, les vieillards que je présente, les grabataires que je présente, ce sont des corps qui fuient, des corps en déliquescence, et qui préparent l'arrivée des zombies, en fait. Mes zombies arrivent relativement tard dans le roman, parce que il faut que le lecteur, en lisant, il se dise finalement, les zombies, c'est rien, quoi. Le drame, c'est ce drame de la vieillesse et tout. Alors moi, il y a le côté fun parce que j'ai été moins concerné par une actualité, ne serait-ce que parce que mon roman se déroule dans une trentaine d'années, ne serait-ce que parce que je traite de la vieillesse et de la déliquescence du corps et je suis pas encore concerné. Donc je suis plutôt cool là-dessus. Et du coup, ça peut se réduire à une espèce de jeu de massacre où ce corps déjà abîmé, on peut le terminer parce que ben voilà, c'est pas grave, il est déjà abîmé de toute façon. Hein, c'est comme on va finir de casser un objet qui est déjà détérioré. Et on le voit bien dans les films de toute façon, où, notamment les films à l'américaine où on tire sur les zombies, ça explose au ralenti. Il y a effectivement un plaisir esthétique à voir ces choses, l'éclatement des corps, etc. Alors moi, comme j'ai une sensibilité plus européenne, effectivement, par exemple, sur l'éclatement des corps, j'ai beaucoup moins travaillé là-dessus. J'ai enlevé les armes à feu. Parce que l'arme à feu, ça me semble justement très cinématographique et très américain. Et donc même si j'en joue, pas sur l'arme, mais sur vraiment la détérioration, etc., sur tout ce qui est dégoûtant, le zombie est dégoûtant. C'est sa raison d'être, d'une certaine manière. Donc même si je joue là-dessus, il fallait que ça reste fun, effectivement. Et d'ailleurs, le roman commence comme une grosse blague. Hein. C'est quand même des papis contre des zombies. Et c'est fait pour commencer comme ça. Et par contre, normalement, comme j'ai mis cette histoire dans la bouche d'un narrateur qui est aussi quelqu'un qui a un humour noir et très grinçant, on accompagne cette vision du monde, on adhère à cette vision du monde où tout ressemble à quelque chose, effectivement, de drôle, de... même les descriptions, justement, je reviens sur ma gastro, vous m'en excuserez, qui est décrite de façon un peu épique, à la Céline, avec un style très oral, etc. Donc il y a une transformation aussi jouissive de cette chose qui est rejetée. On aboutit petit à petit à une situation absolument ignoble, où il y a, encore une fois, comme souvent dans les films de zombies, un renversement sur, finalement, lequel est le plus inhumain des deux.
Et sur l'affaire 68, le fait que tes héros soient nés, soient des 68ards, est-ce que c'est juste la référence au film de Romero, ou est-ce que ça dit un petit peu plus de choses sur cette génération-là, comme par exemple Andro parle aussi de la situation en Argentine?
Alors pour moi, il y a une vraie signification. Alors j'ai pas une prétention d'analyse sociologique ou politique, mais de ce que j'ai connu, j'ai quand même l'impression que voilà, la génération 68, c'est ceux qui ont connu les 30 glorieuses, qui arrivent après un désastre total, qui sont dans la reconstruction, l'optimisme et la consommation qui va avec, qui prennent cette habitude de consommation. Qui en même temps se sont battus, pour certains en tout cas en 68, et c'était le cas de mes parents, pour une société un petit peu plus libre, et qui ont échoué sur une grande partie de ce qu'ils revendiquaient, et dont les revendications d'ailleurs ont été retournées pour créer une société d'ultra-consommation. Et du coup, pour moi, les personnages incarnaient un peu cet échec, et en même temps cette espèce de remords qu'ils peuvent avoir en disant voilà, on a tenté quelque chose qui a échoué, et d'une certaine manière, si on en vient à avoir des enfants qui se transforment en zombies et qui se bouffent entre eux, c'est de notre faute. Voilà. Donc ce zombie était un peu l'incarnation de cette espèce de remords. On a tout détruit, même si on essayait de faire autre chose, on a raté notre coup.
Il y avait des choses derrière. Pour revenir à la question initiale, Maxime et Julien, pourquoi est-ce que les zombies sont cannibales ? Pourquoi est-ce qu'ils mangent les autres ? Les vivants, tout du moins.
Ben c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on doit, ça à Romero. C'est lui qui va véritablement mettre ça. Il y a des légendes, hein, c'est dans les mille et une nuits, je crois la goule est une figure qui dévore les cadavres. Alors, probablement que la goule a été une influence. Je sais que
ils sont appelés goules dans les premiers films de Romero, d'ailleurs. Ouais. Le terme apparaît.
Ouais. Merci, j'avais pas souvenir. Et puis, il y a évidemment le roman de Matheson qui a été une influence très, très grande pour Romero, I Am Legend, où un homme va se battre contre des vampires. Là encore, il y a cette idée d'un mort-vivant. Il y a aussi cette idée de boire le sang, etc. On n'est pas si loin de la figure du cannibale. Et ça aussi, ça va être une référence importante dans cet univers apocalyptique-là qui va être celui de Romero. Mais Romero lui-même va véritablement cristalliser, va être capable de transformer le zombie d'une créature haïtienne pour en faire un motif incarnant les peurs de l'Amérique, incarnant un grand nombre de peurs de l'Amérique, en fait. C'est véritablement son tour de force.
Julien?
Oui, c'est non seulement une influence, je suis une légende, mais dans la première version du script de La Nuit des Morts Vivants, c'était une adaptation pure et dure du roman de Matheson qu'il avait en tête, avec un scénario un petit peu différent, pour plein de raisons, dont des raisons économiques, ça a tourné au film qu'on connaît aujourd'hui. Et puis pour prolonger ce que dit Maxime, c'est vraiment une métaphore de la société de consommation poussée à son paroxysme. C'est-à-dire qu'on est dans une société de concurrence au point qu'on se bouffe les uns les autres. Hein. L'idée du film de Romero, pour poursuivre aussi ce que disait Jean-Pierre, c'est vraiment que la menace, ce sont les humains, puisqu'on a dans la nuit et encore plus dans le suivant, l'aube des morts vivants, zombies, on a un groupe de survivants qui sont enfermés les uns avec les autres. Et puis, dans La Nuit des Morts Vivants, c'est huis clos de Sartre. Hein. L'enfer, c'est les autres, réellement. Quoi. Est-ce qu'on va collaborer? Ça pose aussi une des questions fondamentales de la société américaine, à savoir, est-ce qu'une société fonctionne sur un mode collectif, solidaire? Est-ce qu'en s'entraidant, on va arriver à un bonheur collectif? Ou est-ce que c'est la recherche individuelle de l'épanouissement qui est censé amener un bonheur collectif. C'est cette problématique-là qui est existante aux États-Unis depuis les pères fondateurs et qui est ici mise en image avec une menace extérieure qui vient cristalliser les comportements. Et effectivement, les gens se bouffent les uns les autres littéralement. Quoi. Je pense que c'est l'idée de Romero dans ce film-là. L'idée de choquer aussi, hein, parce que c'était un film au départ, c'était une comédie. Hein. Ils ont fait ça de manière assez potache. C'est un petit peu comme Massacre à la tronçonneuse. Hein. C'est des films qui ont eu un destin qui a largement dépassé leurs auteurs et leurs scénaristes.
Jean-Pierre, entre les deux romans et la nouvelle dans l'anthologie chez Griffe d'Encre, tu as fait tes zombies exactement pareil ou comment est-ce qu'ils ont évolué?
Au départ, encore une fois, c'était des morts qui revenaient pour gêner les vivants. Pour ce qui est d'Un horizon de cendres, j'ai vraiment voulu faire... presque un copier-coller, disons un étalage de toutes les situations que j'avais lues ou que j'avais vues dans des films précédemment. Je le disais tout à l'heure, un petit groupe qui est confronté au premier zombie qui arrive dans de ses eaux, puis après ça passe en ville où les morts envahissent les rues, mais au début ils sont pas très agressifs, on les côtoie simplement, puis peu à peu on s'aperçoit qu'ils veulent nous manger. Alors il y a le syndrome comme ça de la réunion pour lutter à plusieurs contre la menace extérieure. Donc on s'intègre dans des fortifications, dans une vieille caserne. Hein. On fait des zombies prisonniers, on s'amuse à leur tirer dessus, effectivement. Mais ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu dans des tas de films précédents. Il y a même des gens qui s'en servent comme esclaves. Il y a des hommes qui veulent faire l'amour avec des zombies femelles. Donc voilà, j'ai synthétisé toutes les situations possibles et imaginables que j'avais vues ailleurs. C'est pour ça que je prétends n'avoir rien inventé et je me justifie de la sorte en disant que le zombie ne m'intéresse pas tellement, mais c'est les réactions qu'ils induisent sur ceux qui sont face à cette menace. Ceci dit, c'est vrai que le zombie apparaît et se démultiplie aujourd'hui parce que les menaces se précisent, les menaces se démultiplient. On peut aller jusqu'à l'effet de serre, chose qui nous environne mais qui n'a pas vraiment de forme. contre lequel on ne sait pas comment lutter. On peut fermer le robinet, bien sûr, en se brossant les dents ou pas prendre sa voiture pour faire 500 mètres, mais ça ne change pas grand-chose. Mais il y a aussi un aspect commercial. On rejoint la réflexion de Malraux. Le cinéma, c'est aussi une industrie. Et si les films de zombies marchent, eh ben, on fait d'autres films de zombies. Et s'ils marchent, on fait encore plus de films de zombies. Et c'est vrai que je viens d'écrire et de publier un gros dictionnaire sur le cinéma fantastique. La filmographie des zombies est gigantesque par rapport à n'importe quelle autre filmographie, y compris ceux des vampires. Et si on regarde les 10 dernières années, tu as au moins 200 ou 250 films de zombies dans les 10 dernières années. Et ça, c'est pas parce que les metteurs en scène ou les producteurs ou les scénaristes se sont dit on va révolutionner le monde, on va faire une métaphore sur les menaces, sur l'étranger, sur l'autre. C'est simplement parce que ça marche. Et ça marche, c'est parce que ça vous fait peur, quoi. Ça vous fait peur et ça vous dégoûte à la fois. Il y a effectivement cet aspect sanguinolent, les tripes qui passent, les zombies purs, fait tout ce que dans notre bonne civilisation du propre et du clean, tout ce qu'on repousse, eh ben, on le retrouve dans ce film. Et ça nous fait peur, mais puisque ça nous fait peur, c'est que ça nous fait plaisir.
La conférence, on a encore 10 petites minutes. Est-ce qu'il y a une question avant qu'on passe à la dernière partie? Dites-nous. Personne? Bon. On parle de l'aspect commercial. Que ce soit Fabien ou comme Leandro, est-ce que vous avez continué à écrire sur les zombies ou est-ce qu'une fois que c'est fait, on passe à un autre sujet? Jean-Pierre l'a dit, hein, c'est pas une figure qui l'intéresse, mais il y revient, mais pour d'autres raisons. Est-ce que vous allez reprendre et utiliser les zombies de nouveau, Leandro?
Después de Massachusetts, en otra novela que publicó Asphalt Editions, que se llama Côté Cour, aparecen unas criaturas que son también un poco cercanas a los zombies, pero no exactamente.
Donc après Massachusetts, il y a un roman d'Asphalt, le même éditeur, Côté Cour, où il y a certains personnages qui ne sont pas des zombies, mais qui s'en approchent vraiment.
Continué escribiendo algunos cuentos sobre zombies. Que fueron publicados en antologías de zombies en Argentina. Algunos son sobre, están ambientados en la Zombie Walk de Buenos Aires.
Entonces continué escribiendo. J'ai continué à écrire quelques histoires après ces publications de zombies qui ont été publiées en Argentine et qui se déroulent dans la zombie zone de Buenos Aires. En fait, il s'agit du Grand Buenos Aires, qui est une banlieue dangereuse.
Pero bueno, las novelas que escribí después ya no tienen que ver con los zombies en particular.
Par contre, les romans suivants n'ont plus rien à voir avec les zombies.
Moi, avec deux romans et une nouvelle, je pense avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur le zombie. C'est intéressant de varier autour de la figure, mais bon, c'est vrai que même si la figure est inépuisable, elle est épuisable pour moi, avec mes capacités. Et donc, il y a plein d'autres créatures à faire, donc je me consacrerai à d'autres après.
Jean-Pierre, Maxime et Julien, est-ce qu'on va encore bouffer beaucoup de zombies au cinéma? Et est-ce qu'il y a des nouveautés, entre guillemets? Est-ce que le zombie vient d'évoluer un peu au ciné dans ce qu'il est, dans la manière dont on le représente? On a trois spécialistes, hein, on peut vraiment en profiter pour le coup.
Oui, Maxime l'évoquait tout à l'heure, il y a eu un changement au début des années 2000 qui correspond aussi au passage du zombie dans le très grand public. C'est sorti du cinéma d'horreur, du cinéma de genre pour vraiment accéder à des gros budgets, notamment au cinéma, en 2004 avec le Dawn of the Dead et puis 28 jours plus tard. 28 jours plus tard, Danny Boyle s'est défendu à longueur d'interview d'avoir fait un film de zombies. Et puis, comme il était sorti la même année, ils ont été tournés en parallèle, hein, en fait, avec Dawn of the Dead, le remake de Snyder, et qu'il mettait en scène des créatures qui étaient visuellement similaires, c'est-à-dire des zombies très rapides, une contagion très rapide, physiquement des pupilles animales. On est en face de bêtes féroces, en fait. Hein. Et dans l'un comme dans l'autre, on n'a pas vraiment d'indication que ce sont des morts qui sont revenus à la vie. On ne les voit pas sortir de terre, comme dans les Romero. On ne les voit pas non plus, je veux dire, dans les Romero. Ils ne sont pas réellement en décomposition. Donc on est vers une espèce de zombie ultime, quoi, qui serait vraiment la menace ultime, rapide, adaptée à nos sociétés actuelles. Et Danny Boyle a eu beau se défendre, on a assimilé son film à un film de zombies. Et c'est, ces deux films-là ont cristallisé cette image qu'on nous on appelle dans le bouquin et puis que même dans les films, à l'intérieur des films, on appelle des infectés, quoi. Donc on est passé, c'est la nouvelle forme du zombie serait celle de l'infecté, rapide. Et c'est celle qui domine aujourd'hui, ouais, effectivement.
Maxime, Jean-Pierre.
Ben, on peut. Je pense que j'ai le sentiment qu'il y a une. Puisqu'on est désormais de plus en plus responsable de l'épidémie de zombies, on perd en partie l'aspect mystérieux ou l'aspect magique du zombie. Ça apparaît de moins en moins comme une créature fantastique et de plus en plus comme une possibilité technologique ou scientifique. Par exemple, on va dire du zombie qu'il est un mort qui revient à la vie. Mais ce serait qu'une toute petite partie de son cerveau qui serait revenue à la vie, la partie la plus profonde de l'esprit humain, du cerveau humain, ses pulsions animales. Dire ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire fondamentalement, et c'est un peu pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, que le cinéma de zombies, c'est un cinéma qui s'interroge sur ce qu'il y a de plus profond en l'homme. Qu'est-ce qui se passerait si on se retrouvait que nous tous ensemble dans un contexte terrifiant? Quels rapports sociaux est-ce qu'on développerait, etc.? Et de la même façon, le zombie, il est, dans une certaine mesure, l'image que notre société nous renvoie de ce que nous sommes profondément. La partie la plus profonde du cerveau s'est réallumée, s'est remise à fonctionner, et donc, fondamentalement, nous serions des bêtes. Donc, fondamentalement, nous serions des cannibales, nous serions... Le zombie, ce serait nous, si tout le vernis de la civilisation était parti. Et cette image-là, elle est exactement l'image que nous renvoie les faits divers, que nous renvoie la société de communication dans laquelle on se trouve. Si on nous laissait seuls, on s'entre-déchirerait. On serait des loups, alors que c'est faux, alors que c'est un mythe, alors que fondamentalement, ça n'a rien à voir. L'image que l'on a de plus en plus, c'est de croire que si on nous laissait seuls, on se tuerait les uns les autres. Et ça, pour moi, c'est un symptôme de notre société. C'est un symptôme de nos propres craintes quant à ce que l'on est fondamentalement.
Julien,
juste un mot. Cette forme-là du zombie apparaît dans une société où on fait peur aux gens en permanence. Hein, c'est exactement ce qu'était en train de dire Maxime. Et où, en même temps, la réalité de la mort est de plus en plus invisible, de plus en plus masquée, que ce soit les morts à la guerre, que ce soit les morts, même nos proches. La réalité de la mort est masquée parce que commercialement c'est pas intéressant, et on est dans cette espèce de paradoxe, et c'est là où le zombie ressort de la même façon qu'il est mis en scène par Leandro dans un Buenos Aires chaotique, de la même façon qu'il était ressorti pendant l'Espagne franquiste, pendant les années de plomb en Italie, ou pendant tous les événements des années 70 dans les sociétés occidentales. Donc ça dit beaucoup, je pense, sur le paradoxe dans lequel on vit actuellement. Et effectivement, c'est à la fois une réaction et une mise en image de ce paradoxe-là, où on nous vend une réalité humaine, mais qui n'est pas la nôtre. Profondément.
Jean-Pierre, sur l'aspect cinéma, beaucoup de projets encore. On va encore en manger du zombie.
Oh, bien sûr, oui, mais ça va s'effondrer comme tout s'effondre, hein, comme la fantasy, l'heroic fantasy s'effondre. On est sur un phénomène de redite là, en ce moment, vraiment. Hein. Je crois que le film de Romero, s'il est si exceptionnel et si exemplaire, c'est qu'il a quasiment tout inventé, quoi. Et ce qui est caractéristique, c'est que je disais que le zombie, c'est effectivement une masse indifférenciée qui avance sur nous, et voilà, pour nous submerger, et nous, on recule. Mais ce qui fait le plus peur, c'est pas tellement ça, c'est les toutes premières images du film de Romero, où il y a que simplement quelques zombies qui sont assimilés à des promeneurs, comme ça, et qu'il faut s'approcher de très près pour voir qu'ils sont un peu bizarres. On les voit sortir de terre, c'est ça qui fait peur. Et puis, après, le phénomène de multiplication fait que le zombie s'annule plus ou moins. Il devient, ce que je dis depuis le début, cette forme, cette force indifférenciée qui provoque en nous des réactions qui, elles, sont intéressantes parce que c'est la réaction de peur ou de rejet qu'on a contre les SDF qui peuvent pulluler sur le trottoir, ou les immigrants qu'on voit s'accrocher aux barbelés de la frontière avec le Maroc, là, et tout ce qu'on comprend pas, tout ce qui nous fait peur, tout ce contre quoi on est impuissant à agir, non pas seulement pour les combattre, mais peut-être pour les guérir, mais peut-être pour les assimiler, etc. Donc voilà, c'est pour ça que ça marche si fort. Mais je crois que encore la majorité des gens qui vont voir des films zombies ne se posent pas ces questions-là. Ils ont envie de se faire plaisir en ayant peur.
Voilà, on va nous aussi se faire plaisir. On vous remercie, on les remercie. Bientôt, ils sont tous en dédicace. Et restez là, il y a encore une autre table ronde. Merci à tous.
Voilà, monsieur. Merci à vous.